Métal, le podcast du Théâtre des Esquerres. Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Marc Langevin. Yeah! Je suis accompagné, comme d'habitude, avec mes chummies Pierre-Anthony Breton et Benoît Saint-Pierre.
Hello! C'est pas pire, hein? On dirait que t'as oublié mon nom.
Non, ben c'est voulu. Je t'oublie souvent. Merci. C'est Benoît, c'est ça.
Merci.
Benoît.
Ben c'est Benoît ton nom?
Oui, c'est ça. Okay.
Félicitations, Jerry. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que le podcast est une présentation de Honeybee. Parce que Honeybee, c'est...
Bon en salle!
Je ne m'étonnerai jamais. Toujours excellent, toujours excellent. Et aujourd'hui, on est avec M. Jérémy Demey qui est venu présenter son spectacle naturel. Jérémy Demey, bonjour!
Bonjour, les amis.
Bonjour. Bonjour.
J'aimerais saluer les millions de personnes qui sont devant nous en ce moment. Il y a une madame. On peut le dire qu'il y a une madame.
Oui, il y a une madame. Je pense qu'il y a une deuxième madame. Bonjour, madame.
Je suis trompé, vous allez être deux, madame. Vous allez être deux, ça va être le fun.
Le public vient de doubler, littéralement.
Doublé. J'ai rappelé qu'on enregistre un lundi après-midi, donc c'est déjà.
Oui, c'est sûr, il y a des
choses qui arrivent.
Ah, il n'y a pas bingo. Y a-tu bingo aujourd'hui?
Non, c'est dimanche. Ça, c'est le dimanche. Le super bingo depuis Kogan. Je le recommande.
Oui, oui. As-tu déjà été?
Non.
Non? Toi, Jérémy, t'as-tu déjà fait un bingo?
Ouais. Ouais. J'aime ça, le bingo, moi.
Ah ouais?
C'est le fun, le bingo. oui.
C'est... Genre, est-ce que c'est plus le bingo Tupperware ou le
non,
bingo
non, non,
traditionnel?
Non. Un bingo traditionnel, mais le feeling quand t'as la B5, là, mais que tu l'as. Tu vois, le feeling, il est bon, le feeling. Non, moi, j'aime bien le bingo.
L'urgence de crier avant que quelqu'un d'autre prenne ton spot.
Ouais, j'aime ça. Vous êtes, madame, vous êtes fan de bingo? Non? Et vous, madame? Fan de bingo?
Non.
Parfait.
Bon, ben, fait qu'on parlera pas de bingo.
D'accord.
On va offenser des.
Mais je pense pas qu'on peut se faire beaucoup de millage avec du bingo.
Ah, très surpris.
Ouais?
Oui, il y a 60 boules différentes.
Ah, c'est vrai. On va en parler de chacune. Ouais.
Jérémy, tu es venu présenter ton spectacle naturel. Tu es rendu à ton combienième One Man Show?
Troisième.
Ton troisième?
Ouais.
C'est quoi la différence entre ton premier et ton troisième? Où est-ce qu'on est rendu?
Je pense expérience. J'ai mûri. Je suis plus ce que j'ai envie d'être. Sur scène, tu sais, avant il y avait beaucoup de je veux donner aux gens ce qu'ils aimeraient avoir pour me faire aimer, pour me faire accepter. Et maintenant il y a plutôt hein, je fais ce que j'ai envie, puis je vais dans mes niaiseries, dans mon immaturité à fond, sans me soucier de ce qu'on pourrait penser, puis ça réussit en fait. Mm-hmm. Je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux qu'être soi finalement.
Ouais.
Que vouloir avoir juste une belle image.
Uh-huh. Fait que c'est pour ça que tu es tout nu dans ton affiche.
Entre autres.
Ah, okay, okay.
Il y a quelque chose de
libérateur.
De libérateur.
Ah, okay.
C'est ça un peu, c'est libérateur d'être soi, je trouve. On vit tellement dans un monde d'images que ça fait du bien dans ce masque-là de dire non, je vais être moi, même si ça te déplaît.
Effectivement. T'es-tu tenu sur scène aussi?
Non.
Non?
Ah. C'est juste un... Mais ce qui est bien de ce projet, c'est qu'on ne voit rien.
Non, c'est ça, je regardais, il y a le U censure bien.
On voit tout, mais on voit rien. Hein, mesdames? Vous vous gâtez sur le poster, là. Hein?
T'aurais dû faire une version de face aussi.
C'est pas... Vous n'êtes pas gâté? OK, madame, on demande. Il n'y a pas de problème. Je peux
Mais tu sais, t'aurais pu faire une version de face avec la barre du thé qui descend vraiment.
Ouais. C'est vrai que ça aurait été pas mal, ça aussi.
Prochain show.
T'as raison. Il y a quelque chose de marrant, t'as raison.
Puis j'imagine que, tu sais, comme tu parles, c'est plus toi qui parles. Donc, tu sais, c'est un peu la courbe. Ce que j'entends souvent, c'est que c'est plus personnel comme show, j'imagine. T'es rendu plus là-dedans dans ton humour?
Ouais, mais je pense que ça a toujours été. Un show, c'est toujours personnel parce que tu parles toujours de toi. Mm-hmm. Je pense. Tu parles toujours de ce qui touche. C'est le propre de l'humour. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire les critiques qui vont dire des choses comme « Ah, ils nous parlent encore des mêmes sujets, mais c'est parce que c'est ce qu'on vit. Ouais. » On vit le couple, on vit le mariage, on vit la nourriture, on vit le sport, on vit... Fait qu'on vit tout ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle d'autre que ce qu'on vit? Donc, je pense que c'est toujours été naturel à l'endroit où j'étais, en fait. C'est juste que maintenant, je suis plus mûr, comme n'importe qui vieillit. Et puis, je sais plus ce que je veux, je sais plus ce que je veux pas. Je fais moins semblant. Et puis voilà, c'est juste quelqu'un qui a n'importe qui a mûri et qui est... Mais je pense que j'ai toujours été à l'endroit où, tu vois, j'ai toujours exprimé dans mon art ce que je voulais dire à ce moment-là, en fait. Mmh. Ça n'a pas été...
Ouais, c'est sûr que quand tu as 19 ans, puis que tu arrives à 36 ans, je ne sais pas t'as quel âge. Là,
41.
41? Mmh. Ah, t'es fait pas.
Non, c'est vrai.
T'as une petite jeunesse. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment pas les mêmes propos. T'as-tu des enfants aussi?
Deux petites filles, ouais.
Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est pas le même gars que 19 ans qui a commencé à faire de l'humour.
Non, c'est
ça. Ça a eu un impact, ça, dans ton écriture, d'avoir des enfants?
Non.
Une source d'inspiration, peut-être?
Une source d'inspiration un petit peu. Je pense pour celui d'encore d'après, parce que là, c'est nouveau encore la paternité pour moi, mais est-ce que ça a eu un impact? Non. Non, ça n'a pas eu d'impact. Je pense que... Non, ça a eu un impact. Non, ça n'a pas eu d'impact. J'essaie de trouver une réponse qui fait du sens, mais... Non, ça n'a pas eu d'impact. Ni d'ailleurs dans l'humain que je suis. Tu sais, souvent on dit les enfants nous changent. Je pense pas que les enfants m'ont changé, moi. Je pense que les enfants m'ont fatigué.
Ouais.
Avec les nuits debout. Mais je ne pense pas qu'il m'ait changé en tant qu'être humain. Je pense que c'est une source d'amour. C'est plein de belles choses, autant que c'est très difficile quand ils sont jeunes. Mais ça ne m'a pas nécessairement changé en tant, en tant qu'humain. Je ne pense pas.
Non, c'est parfait.
Je pense que je change comme n'importe qui via l'âge, via les expériences, via de la thérapie, si tu en fais. Moi, j'en fais beaucoup.
Oui.
Mais à part ça, je ne pense pas que les enfants nous changent. En tout cas, pour moi, ce n'est pas mon expérience à moi.
Les enfants, si on leur pose la question, c'est peut-être autre chose. Tu parlais de thérapie, tu as fait aussi. T'as parti des conférences aussi.
Entre autres, ouais, depuis que j'ai écrit des livres, on m'a demandé d'en faire.
Est-ce que t'en fais encore?
J'en fais encore, ouais. Je me suis mis à en faire et puis j'ai trouvé ça au début inconfortable.
Ouais.
Et moi, j'aime bien aller où je suis inconfortable.
Okay.
À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est inconfortable, je me dis, je vais plonger dedans. Parce que j'en ai besoin.
Mais c'est là qu'on a des expériences, puis qu'on change aussi, qu'on prend de la maturité.
Qu'on pousse nos limites.
Ouais, c'est exact.
Ouais, qu'on découvre, qu'on essaye, qu'on... Voilà, j'aime bien. Donc moi, j'aime bien aller où c'est inconfortable, peu importe dans ma vie. Et donc, ouais, un jour, on m'a proposé de faire des conférences. Et l'idée de parler aux gens sans faire rire, ça me rendait très inconfortable.
Ouais.
Parce que moi, ça me prend un gag, parce que le silence peut être très... déstabilisant,
ouais, j'avoue.
En tant que humoriste.
Surtout quand t'es habitué de dire, tu sais, je dis une phrase, là, ça rit, puis que t'es un peu conditionné comme ça, puis là, t'arrives dans une conférence, puis là, ça marche pas. Fait, je comprends que ton cerveau est déjà construit d'une façon.
Exact.
Fait que de le vivre d'une autre façon, c'est sûr que ça doit être l'enfer.
Exact. Mais justement, je me suis dit, parce que ça va être ça, je vais aller.
Et mais puis, est-ce que t'aimes encore ça?
J'ai aimé ça, et j'aime encore ça, ouais. J'aime ça parce que c'est quelque chose qui me plaît, ce sujet-là. J'aime me renseigner sur la santé, que ce soit physique, psychologique, émotive. J'aime expérimenter et j'aime en parler. Et comme les gens veulent l'entendre, en tout cas, il y a des gens qui veulent l'entendre, ben, je me dis que c'est un win-win pour tout le monde.
Puis est-ce que tu as tout le temps voulu faire de l'humour ou ben, tu avais une passion un peu plus, être médecin ou des trucs comme ça quand tu étais plus jeune, pour avoir cette passion-là des gens?
Je pense que j'avais joueur de soccer.
Ah oui?
Ça, c'est côté européen.
Ouais, c'est le cas.
De 8 ans à 15 ans.
OK.
Après, j'ai compris que je n'aurais jamais le niveau à 15 ans. Il y avait juste un joueur sur 1 million qui allait y arriver. Et après, c'est venu à 18 ans. Je fais une école de business à l'époque en France. Et là, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Alexandre, qui est aussi niaiseux que moi. Vraiment deux gros épais. Et on est tout le temps ensemble. Et un jour, on est dans un petit bar. On est lundi soir, comme aujourd'hui. Lundi soir. Et on est à Marseille, dans le sud de la France. On est dans un bar. On est 4, lui, moi, puis 2 de nos amis. Et il y a un monsieur qui est juste là, un monsieur moustachu. Il te ressemble un peu. Il te ressemble un peu, il est assis là. Et sinon, le bar, il est grand, quasiment comme ici, et il est vide, parce qu'on est lundi soir. Ouais. Et là, on fait les cons, on rit. Et là, il vient nous voir, il est juste là. Il dit, est-ce que vous êtes humoriste? Et on dit, non, on n'est pas humoriste, on est étudiant. Il dit, parce que c'est mon bar ici. Puis dans 2 semaines, on fait une soirée chanson, un peu Star Academy amateur. Est-ce que vous aimeriez venir faire un numéro à l'entraque? Et nous, on se regarde, ben oui, ok. Fait qu'on se dit pourquoi pas, fait qu'on l'a fait. Et moi, ce jour-là, j'ai eu un éclair de génie où je me suis dit, ça va être ça que je fais.
T'as eu la piqûre d'être là.
J'ai eu la piqûre d'être là.
Uh-huh. C'était-tu un texte que vous aviez écrit ou vous avez décidé d'improviser puis de...
Non, on l'a écrit. Mais tu sais, on a écrit comme quelqu'un qui a écrit quelque chose en 2 semaines.
Ouais, non, c'est ça. Ouais.
Et Dieu sait que c'est dur d'écrire de l'humour. En 2 semaines, tu peux écrire juste de la marde. Donc, il n'y avait pas le rodage, il n'y avait pas.
Non.
Ça, on n'a pas fait ça, nous. On a écrit, nous, deux
tout
étudiants.
Tout fait en deux semaines.
Mais c'était un succès à tes yeux quand tu étais sur scène?
À mes yeux, oui.
Oui,
je le regarderais aujourd'hui, ce serait de la crise de marbre. Mais à l'époque, ça me paraissait un succès. Mais surtout, je me rappelle du feeling. Le feeling de me dire, waouh, c'est ça que je vais faire. Ça fait clic dans ma tête, tu vois. Et ça reste encore à ce jour présent.
Mm-hmm. Puis ça a été quoi la suite? C'est les open mic, l'école de l'humour, c'est quoi le processus qu'il y a eu ensuite?
Après, je déménageais à Montréal à la fin de mes études pour faire un stage à Juste pour rire. Et là, on m'avait dit, si tu veux faire humoriste, tu devrais rester à Montréal quelques mois pour apprendre l'humour. Parce que les Québécois sont meilleurs que les Français, donc tu devrais rester ici. Je pense que c'est plus vrai aujourd'hui, mais ça l'était beaucoup avant.
Ouais.
Je pense que la France
avait du retard. Il y avait comme un 5 ans d'écart entre les deux pays. Là.
Genre. Mm-hmm. Et là, la France a récupéré, mais à l'époque, c'est vrai. Et donc, je suis resté ici 1 an, puis je suis tellement tombé amoureux de ce pays. Je me suis dit, ben non, en fait, c'est ici que je veux rester. Mm-hmm. Et je suis resté ici. Ça fait 18 ans que je suis là.
18 ans que tu fais de l'humour ici.
Que tu fais juste un stage.
Que je fais juste un stage. Tellement que je suis reparti en France il y a 2 ans pour essayer de percer en France. Et après 6 mois, ma blonde et moi, on s'est dit, on n'aime pas ça, en fait.
Ouais.
On n'aime pas ça, on n'aime pas la vie là-bas, on n'aime pas, tu vois, on préfère le peuple québécois, la façon de vivre québécois fait qu'on se dit non, on va pas rester là-bas pour se faire chier,
non,
on veut être heureux, fait qu'on a arrêté, on est revenu ici.
Est-ce que ta blonde est française aussi?
Non, elle est québécoise.
Ok, ouais.
Je vous ai tout volé. Puis il y avait ça un peu. Vous nous volez nos femmes, vous nous. Mais non, c'est drôle, rien. Elle n'est pas kidnappée dans mon sous-sol.
Non, non, j'imagine que non. C'est Christian Bégin qui serait fâché.
Puis en France, est-ce que c'est le. Tu sais, mettons. Le même processus, il faut que tu sois à Paris pour te développer. T'sais, comme ici au Québec, c'est Montréal, la ville de l'humour. Il y a des soirées à Québec, à Gatineau, un peu partout, à Trois-Rivières. Est-ce que, mettons, en France, il faut vraiment que tu sois établi à Paris pour espérer avoir d'autres spectacles ailleurs? Ou tu peux commencer à Marseille?
Je pense que tu peux commencer à Marseille, tu peux commencer partout à te former. Mais je pense qu'après, si tu veux faire un peu plus de télé ou de la radio... Après, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui remplissent avec juste les réseaux sociaux. Donc, si tu arrives à te faire une communauté sur les réseaux sociaux, puis qu'après tu fais ça partout, tu peux aussi. Mais je pense que la plupart des humoristes sont à Paris où c'est le centre des relations et des opportunités, je pense.
Ouais, parce que les réseaux sociaux, hier, il y a eu un bon exemple d'impact. Mathieu Dufour qui a gagné l'Olivier de l'année. C'est une bébite des réseaux sociiaux à prime abord.
Il s'est fait connaître comme ça.
Oui, 100% pendant la pandémie. C'est-tu quelque chose que tu as introduit dans ta game, ça, les réseaux sociaux? Comment tu les as utilisés?
Moi, je les ai utilisés beaucoup en 2008, 2008 à 2012. Après, j'en avais ras-le-bol. Fait que j'ai fait une pause. Et après, je m'y suis remis en 2017, je pense. Et depuis, j'en refais un peu. Maintenant, je fais beaucoup de moments d'improvisation avec le public. J'aime bien improviser pendant les spectacles. Donc, je prends des bouts d'improvisation et je les mets sur mes pages Instagram, Facebook.
Mais t'es dans mes algorithmes. Je te vois passer dans mes algorithmes. Okay. Parce que moi, j'ai beaucoup de crowd work, justement, là, dans mes algorithmes. Fait que tu passes là-dedans. Mais, fun fact.
Tantôt, j'étais en train d'installer tout le matériel pour faire le podcast. Puis là, j'ai vu ton affiche. J'ai vu que tu avais un tatou, mais moi, ma vraie question est-ce que tu as un tatou des meubles RD?
Ils m'ont demandé.
Ah oui, t'as
demandé. Non. Un jour, je blaguais, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble, puis je blaguais en disant je vais me faire tatouer, me blarder dans le front. Mais je dis là, il faudrait avoir le contrat très, très à la hausse. Non, c'était une blague qu'on avait fait, mais non, j'ai pas de tatou me blarder.
Ça me fait penser pendant le bye-bye, il y avait les annonces faites par intelligence artificielle. C'était-tu vraiment fait par intelligence artificielle?
Ouais.
Moi, ça m'a donné des cauchemars.
C'est vrai?
Oui, je sais pas, les images de... Je sais pas, il était pas naturel, ça paraissait que c'était pas naturel.
C'était un gag.
Ben oui,
Tu sais, il y avait trois doigts au lieu de deux.
Oui, c'est ça.
C'est le créateur des pubs qui a décidé de faire ça pour faire un gag en hommage à ça, mais effectivement, ça fait peur, t'as raison.
Oui, j'avoue.
D'ailleurs, si tu parles du bye-bye, Pierre-Yves Desmarais qui t'a imité de belle façon.
Ouais.
On t'a vu sur les réseaux sociaux le commenter, mais comment tu l'as vécu chez vous?
Super bien vécu. En fait, je savais pas que ça avait lieu, puis j'ai pas regardé le bye-bye parce qu'on faisait le party avec la famille de ma blonde. Et donc, je savais pas que, j'étais pas devant ma télé. Et le lendemain, on me dit, super, ta parodie au bye-bye. Je dis, quoi? Je comprenais pas de quoi il me parlait. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai vu les images qui ont commencé à sortir et là, j'ai vu qu'il y avait une parodie. Mais j'ai trouvé très drôle. Je trouve ça sain qu'on se moque les uns des autres.
Ouais.
Je trouve ça très sain. Tant que c'est drôle et que c'est bien fait, moi, je suis le premier à rire. Tu fais une blague sur moi, si elle est bonne, je la ris. Je suis le premier à rire. Même dans la vie privée, tu fais une bonne blague sur moi, je pleure aux larmes. Si c'est drôle, je vais rire.
Ouais.
Après, si c'est gratuit et méchant, je rirai pas. Mais si c'est drôle, moi, je vais rire. Donc, j'ai beaucoup ri.
C'est une sorte de consécration. Ça veut dire que tes publicités marchent. Parce que s'il en parle au bye-bye, c'est parce que tout le monde les a vus.
Ben, moi, je le vois comme ça. Je sais pas si Martin Matt, il a vu ça comme
ouais.
ça.
Ouais,
je sais pas. Je suis pas sûr qu'il est. Je sais pas s'il apprécie ou non. Apparemment, il est moyen, puis je peux comprendre. Mais non, moi, je l'ai vécu comme ça, moi, comme une consécration. Ça veut dire que les gens la regardent, puis c'était bien fait, puis c'était drôle. Puis il se moquait pas de moi. Il se moquait de la pub.
Ouais, exact.
Donc je trouve ça un peu aussi différent. Si tu te moques de la personne, tu te moques de ce qu'il fait, c'est deux choses totalement différentes. D'ailleurs, c'est un bon débat, je trouve. Tu sais, souvent, quand il y a l'histoire du petit Jérémy. Avec Mike Ward, et puis on parlait de ça avec un ami et on se demandait ce qu'on en pensait à la liberté d'expression. Y a-t-il une limite, y a-t-il pas de limite? Puis clairement, il y a des limites parce que tu peux pas tout dire.
Non.
Hein? On l'a vu dernièrement avec Guillaume Lemaitre-Vierge.
Ouais.
De dire. Oui. Non, mais c'est vrai, si on pouvait tout dire, il y aurait jamais de problème. Donc
le mollo boulot blanc est rendu.
Puis il a même pas parlé, puis il s'est fait avoir.
Mais ça montre qu'on peut pas tout dire.
Ouais. Exact.
Tu vois? Mais on peut en dire, mais pas tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il m'avait dit, mon ami, il m'avait dit, tant que tu ris de ce que quelqu'un fait et non de ce qu'il est, c'est correct. Tu me suis? Si je ris de ton handicap, mais c'est pas de ta faute ton handicap. Par contre, si je ris parce que t'as envie de jongler avec des pommes et une carotte dans le cul parce que ça se fait rire, mais que moi je ris de ça, là c'est correct, t'as fait le choix de faire ça. Par contre, ton physique ou ton handicap ou ta maladie, t'as pas fait le choix de ça. Je trouvais ça intéressant, dans la limite d'artiste, de pouvoir dire, à moins d'avoir la permission de quelqu'un, de pouvoir rire de ce qu'il est, ça, si t'as la permission, c'est correct, mais de rire de ce que les gens sont et non de ce qu'ils font, je trouve ça une belle ligne en tant qu'artiste, pour moi en tout cas.
Puis mettons que je pousse encore plus loin, mettons une personne qui se fait modifier chirurgicalement, est-ce qu'on peut rire de cette personne-là, même si c'est pas né comme ça?
Ben oh. Est-ce que c'est ce qu'elle est? Parce que fondamentalement...
Pas nécessairement, non. C'est son... Ben...
Non, c'est une bonne question. Parce que
c'est un bon débat, c'est un bon débat.
Je sais pas.
Parce que si toi, t'as besoin de faire ça, c'est que dans ta tête, tu n'as besoin. Fait que fondamentalement, tu l'es. On n'est peut-être pas tous d'accord avec le statement.
Je comprends.
Mais si elle l'a fait, c'est parce qu'elle avait sentait qu'elle avait le besoin.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est ce qu'elle est. Mm-hmm. Si une femme dit « moi, je suis un homme dans mon cœur », ben, dans ce cas-là, c'est ce qu'elle est. Mm-hmm. Donc là, c'est que ça devient touché. Ouais, tu vois, c'est là où tu vois que la liberté d'expression est limitée, en fait. Ouais. Parce qu'on peut pas vraiment rire de tout aujourd'hui. Ah. Rapidement, on se fait cancel ou ci ou ça. Fait. Il y a une limite, je pense à ça.
Ouais, ben, tu sais, moi, je l'ai toujours vu, la limite est dans le respect de l'autre, dans le fond. Là. Ma liberté arrête où la tienne commence. Là. C'est tant qu'on se respecte mutuellement et qu'on saute pas au bord de la clôture, sinon ça devient une agression.
Exact. C'est aussi une bonne limite.
Mais j'ai l'impression aussi que c'est un peu des retours de balancier où il y a eu beaucoup d'abus, puis là, on revient où on censure plus, puis un jour, ça va revenir à un équilibre. Où, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça.
Mais oui, ben c'est normal. Là. C'est comme la balance. Là,
oui, c'est ça.
Elle était d'un bord, mais là, c'est sûr qu'elle va... Faut
mais c'est sûr, quand tu veux la rééquilibrer, tu le mets l'autre bord. Fait que c'est un peu ça pour tout, dans le fond.
Je pense que oui. Je pense que oui. Allez, filles!
Si je le dis, c'est que c'est ça. Ça te donne de la liberté en tabarnouche. Si tu le dis, ça veut dire oui.
Non, mais c'est un bon débat, je trouve, cette liberté d'expression du monde. Parce que non, en fait, je ne crois pas qu'il y ait une totale liberté. Sinon, on dirait tout ce qu'on voudrait, il n'y aurait pas de conséquences.
Non, mais je pense que c'est que ça a créé un nouveau phénomène. Ben, je le remarque surtout que l'humour américain, mais est où la limite, les humoristes le cherchent. Là. Ils vont taper un petit peu là, sur les bords de la frontière, puis essayer de regarder. Ce gag-là, il marche-tu, il passe-tu pas? Puis, tu sais, il y a des humoristes comme Shane Gillis aux États-Unis, puis Mark Norman, qui sont souvent sur le bord de la joke raciste, mais qui la twistent juste au bon timing que ça ne l'est pas. Fait que, ça donne des choses qui sont intéressantes. Tu des risques que tu prends de même un peu, tu t'amuses avec ça?
Non, moi, non. J'ai pas envie de. Un parquet derrière.
Ouais.
J'ai pas envie de. Ouais, faut fermer, ok. C'est pas mon genre. Moi, j'aime bien dans la limite, mais si vous venez voir le show, vous allez comprendre, les gars. Je me limite pas avec ce que je pense. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive et que je parle à une dame ou à un monsieur ou dans la salle et qu'il y a quelque chose qui me vient, et même si je sais que ça se dit pas, ben, je vais rentrer dedans. Parce que c'est ma façon à moi de travailler, de dire, je dépasse, mon frère dit souvent, tu dépasses la ligne jaune. Tu sais, la ligne jaune, ça fallait pas aller là, Mais j'aime aller là. Ça fait partie de moi et donc quand je fais des shows, je vais, tu vois, je faisais un show il y a deux jours, tu as un exemple qui est niaiseux, hein.
Ouais.
Il y a une dame qui monte sur scène qui s'appelle Monique, il y a deux jours une belle madame qui doit avoir, une madame qui vous ressemble, elle doit avoir 55, 60 ans, puis elle a les cheveux un peu blonds, mi-blonds, puis mi-violets, tout ça, puis on jase, elle me dit, regarde, c'est ma coiffeuse, qui est au premier rang, je fais, Chris, tu l'as magané, tu vois, tu vois. Ça, est-ce que ça se dit non, mais oui, tu comprends? C'est mon genre de limite à moi d'aller rentrer dans les choses qui peuvent paraître méchantes, mais en fait qui sont juste taquins.
Ouais.
Et les gens sentent que je suis bienveillant, ils sentent que je suis pas méchant, ils sentent que c'est toujours pour taquiner et non pour être méchant. En fait.
Mais en même temps, t'es sur scène, là, il y a une espèce de bouclier, si t'es dans le fil du Subway puis tu dis cette blague-là, je sais pas si ça va passer.
Je suis pas sûr. Ça dépend de ce que t'es. Les gens sentent que t'es bienveillant et souriant et sympathique et que t'acceptes de toi aussi de faire rentrer dedans, entre guillemets, et que ça va comme ça. Je pense que si c'est sain et bien fait, je pense que tu peux y aller.
Oui. Mais ça, je suis 100% d'accord.
Mais je pense aussi que... je pense vraiment que ça dépend aussi de la personne en tant que telle. Je serais quand même curieux de voir, mettons, qu'on recrée notre univers présentement puis que la blague a été dite, mettons, par Louis-José Hood.
Mike Ward,
j'ai pas fait le lien, mais oui, je fais le lien. Fait que si ça avait été dit par Louis-José Hood, est-ce qu'il y aurait eu le même impact? Je sais pas, je me demande. Parce que.
Je pense que oui, moi.
Tu penses que oui?
Je pense que oui. Je pense parce que Mike, c'est quelqu'un de fondamentalement bon.
Oui, mais je pense pas qu'il est perçu. Mais tu sais, moi, je te crois, puis je le sais que Mike Ward, c'est une bonne personne, mais je pense que son humour a dérangé beaucoup, puis ça a cristallisé dans la tête des gens. Je pense qu'il y a certaines personnes, puis là, je sais pas une majorité, je pense pas, mais je pense qu'il y a il y a certaines personnes que dès qu'il dit quelque chose, c'est pas correct. T'sais, ça sera jamais correct.
Je comprends.
Parce que polarisé du monde avec son numéro noir. Là,
je comprends.
Mais quand tu comprends que c'est de l'humour, puis qu'il est allé plus loin, puis il est allé. Quand tu regardes le numéro en tant que tel où il s'est fait poursuivre, c'était pas si pire que ça.
Pourtant, Mike, je le connais, mais même si je ne le connaissais pas, j'ai l'impression que quand je l'écoute, je le sens doux.
Oui, mais oui.
Oui, il a l'air doux.
Ouais, ben il prend la défense, petit Jérémy, dans le numéro à la base.
Ouais, mais je pense que fondamentalement, puis ça, c'est un gars adorable, Mike, mais il est doux. Ouais. Il est pas énervé, il est pas, tu vois, il est pas agressif, il est doux, il est sympa, il est à l'écoute. Puis ça, on le sent. Mais effectivement, ouais, il y a des gens qui créent des polémiques. Mm-hmm. Alors, est-ce que ça va être Louis-José Haute qui aurait dit ça? Je sais pas, bonne question.
Mais c'est ça. Ou ben, tu sais, un humoriste qui commence puis qui est vraiment un peu trop trash. Tu sais, je sais pas s'il faut que tu fasses un peu ta place ou que. Tu fais un peu ta trail. Hey, ça, c'est mon genre d'humour. Vous allez voir, je peux aller plus loin. Ou en tout cas, je sais pas.
Mm. Ça marche pas pour tout le monde, là?
Mais c'est ça, je sais pas. C'est quand même. Je pense que quand tu vas vers là, il faut que tu aies une finesse là, dans ton écriture.
Oui, parce qu'il y en a un qui c'est. Ah, j'ai oublié son nom. Tabarnouche. Parce qu'il y a un humoriste qui était quand même assez. Ah, c'était pas les jokes qui l'ont cancellé, par exemple. Je vous gêne de créer un malaise, hein?
Ben, je dis vraiment, je parle.
Je cherche son nom. Il était assez baqué, il avait une bonne barbe. Puis il était très, 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 très trash.
Jeff Mercier?
Ouais,
non, pas Jeff Mercier, pas Jeff Mercier, plus jeune. Vraiment de la relève.
Paf, c'est ça?
Non, pas Paf. Pas, toi, tu parles de Laf?
Là, Paf.
Bref,
bon, c'est pas grave. Nom. C'est pas grave, c'est pas grave.
Il est cancel, je sais plus qui.
Alexandre Douville.
Oui, okay. Douville, oui, exactement, exactement. Mais là, c'est ça, en parlant, je pensais que c'était son humour, mais je pense que c'est pas son humour. Lui, je pense qu'il fait partie du Me Too.
Je sais pas.
Je sais pas.
Je sais plus.
Je le connais pas.
Ça a droppé des faits pas bons, des fois. Mon cerveau est un peu fatigué. Comment tu l'as vécu, ça, tu sais? T'aimes beaucoup les gens, t'es fondamentalement dans le bonheur. Quand ton milieu tombe de même avec le MeToo, puis tout, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu l'as vécu?
Je pense, comme tous les hommes, il y a eu un mélange de peur, il y a eu de panique. Tu sais, c'était un peu une espèce de tourbillon, juste pour rire qui tombe. On comprenait. En fait, moi, ça m'est arrivé à l'entracte de mon spectacle. Mon deuxième one-man show à l'entracte. Puis à l'époque, j'étais produit par Juste pour rire.
Ah, c'est ça, hein? Ouais.
Et à l'entracte, j'apprends que Gilbert Rozon vient de démissionner à l'entracte de ma première médiatique.
Nice!
Ah ouais, en plus.
Ça va bien. Ça va bien. Hey, ton show va bien, là, mec!
Ouais, c'est ça. Je pense que t'as jamais vu aussi peu de journalistes dans une salle.
Moi, j'avoue que ça...
Ça intéressait personne, mon spectacle. Ouais. Mais je pense que c'est un mouvement qui a fait du bien parce qu'on s'est tous remis en question. Je ne peux pas parler au nom des femmes, mais je pense que la plupart des hommes qui ont moyennement été célibataires et volatiles, sauf si tu as eu ta même blonde de 18 ans à 42, là c'est autre chose, mais si moyennement tu as eu des aventures, et bien on s'est tous remis en question à dire c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui n'est pas bien. Mm-hmm. Parce qu'on ne savait pas c'était quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Puis même encore aujourd'hui, après ce mouvement-là, il y a beaucoup de femmes qui me parlaient, qui me disaient les hommes ne veulent plus cruiser. Et leur disait, ah ouais, des niaises, je comprends. Il y a une limite entre me mettre une main au cul et me dire que je suis cute, tu comprends, je veux dire, ouais. Et on savait plus c'est quoi la limite, on savait plus c'est quoi. Il y avait une espèce de moment de panique. Les gens commençaient à être cancel pour une phrase, de dire, lui, il m'a fait ça, mais y a-t-il une preuve? Non, mais ok, mais il est quand même coupable. Il y avait une espèce de tourbillon un peu paniquant pour tout le monde, je pense. Mm-hmm. Donc moi, je l'ai vécu un peu comme ça. C'était un peu une remise en question à me dire, est-ce que j'ai été correct, quoi? Est-ce que j'ai blessé des gens? Est-ce que j'ai dit des choses? Puis en général, hein, au passage. Hein. Et puis voilà, c'est un beau wake-up call pour tous se poser des questions en tant que société et se demander où on va et comment on fait. Donc je trouve ça intéressant, ce mouvement-là.
Puis tu sais, l'impact qu'il y a eu sur le milieu à l'interne, dans nous autres, les humoristes, ça a eu un impact sur les relations? Y a-tu de la méfiance, des choses de même qui sont nées? Ou...
Tu veux dire entre humoristes?
Entre humoristes, oui. Après, quand les choses ont commencé à aller, c'était quoi les relations entre vous autres? Je veux dire, y a-tu... Ben oui, moi aujourd'hui, moi.
Mais tu sais, souvent aussi, il y a comme des non-dits, des choses qu'on sait qui s'est passé, mais que ça n'a pas été dit. Puis là, quand tu vois le Me Too, ben là, tu réfléchis à ces moments-là. Puis, tu sais, moi, je me souviens, d'une manière personnelle, j'ai été témoin de certains trucs d'une autre personne. Puis je me souviens qu'à l'époque, j'avais rien fait parce qu'on ne faisait rien à cette époque-là. Mais tu sais, aujourd'hui, j'avertirais ou en tout cas, j'interviendrais. Mm. Mais je pense que c'était nécessaire d'avoir cette pause-là pour se poser la question, tu sais, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça? Mm. Puis même si tu n'as rien fait de mal, mais il faut que tu restes quand même attentif à l'environnement. Là. Moi, je pense que c'est un peu ça.
Ouais.
Puis je pense que de réfléchir à ça puis de se poser la question, autant qu'on est un homme, autant qu'on est une femme,
ouais.
Ben, c'est ça l'important du mouvement. Là. C'est ça, c'est plus réfléchissez à ce que vous faites, c'est quoi vos comportements. Puis ceux qui continuent, mais c'est ceux qui ne comprennent pas. Là.
Puis d'être dans l'écoute aussi de l'autre. Là, c'est
oui, oui,
ça.
C'est ça.
par rapport à T'sais, est-ce que la personne est confortable aussi? Il y a des signes, là, les gens ont...
Oui, quand tu te sauves, mettons. Là.
Ouais, ouais, ben c'est ça. Arrête. Je cours. La personne est comme, hey, viens-t'en. Non.
Non, mais c'est ça. Ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est que est-ce que ça crée un malaise entre vous autres? Est-ce que tout le monde s'est posé les questions de faire comme, OK, qui dans la gang n'est pas bon? Y a-tu une chasse aux sorcières? Y a-tu...
Ben, je crois qu'à l'époque, il y a eu une liste qui est sortie, là, ouais. Une espèce de liste.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Mais cette liste, il y avait forcément des noms là-dedans qui étaient vrais et d'autres pas vrais. Je crois que même Mike était dessus, puis il a dit voir que je suis sur une liste. Mais, et je pense qu'il y avait... Donc, je ne sais même plus qui avait fait cette liste-là. Parce que... Voilà. Mais non, je ne sais pas. Je pense que tout le monde était un peu méfiant et tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait. Plus que... Tu vois, on était comme dans une époque où quelqu'un se faisait nommer et il était coupable avant même.
Ouais. Mm-hmm.
Louis Ledoux ou Marc, je dis n'importe quoi là. Marc Lemieux, on fait ça. Ah, ça y est, coupable, bah bye, fini. Mais attends une seconde, je peux-tu. Y a-tu des preuves? Y a-tu une discussion? Y a-tu. Tu vois? Et je pense que c'est ça qui était très apeurant, je pense. C'est de dire qu'on pouvait dire n'importe quoi sur n'importe qui et que mm-hmm. ça devienne un peu un Far West sans enlever rien à des victimes ou à des.
Non, non, mais je comprends disant, ce que tu dis, par exemple.
On peut-tu avoir une discussion, on peut-tu se poser, on peut-tu en parler, ou juste dire c'est lui, il est coupable, et bye bye, tu vois.
Ouais.
C'est ça qui était apeurant, en fait.
Oui, c'est sûr.
De peur que Jérémy Demain, il a dit telle affaire sur mon cul, quoi.
Donc, c'est ça, il y a deux problèmes. Il y a le problème de qu'est-ce qui s'est passé, puis il y a le problème de est-ce qu'on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui sans.
Ouais.
Puis quand je dis n'importe quoi, ça se peut, quoi. Il y a des gens qui sont vraiment coupables, puis il y a des gens. Tu sais, il y a l'histoire d'un prof. Je sais pas si vous avez vu cette histoire-là. Un prof, il y a une fille qui l'avait accusé de
oui,
d'avoir violé, tout ça. Ouais. Puis il a été cancel, puis il n'a plus travaillé, tout ça. Finalement, elle a avoué que ce n'était pas vrai.
Oh shit.
Mais entre-temps, lui...
Il a fait de la prison.
Non,
il avait pas
il, fait il de est barré de partout, puis il n'a plus travaillé. Même aujourd'hui, maintenant qu'elle a avoué qu'il ne s'était rien passé, il est quand même barré. Donc ça devient dangereux.
Ok, c'est un enjeu certain. Là.
Tu vois, il faut juste doser. Et c'est ça un peu, je pense. C'est arriver à... Je pense que ça a amené aussi à pouvons-nous créer un endroit où on peut se parler?
Ouais.
Tu vois, on va se parler. Des fois, tu as vécu quelque chose, puis les deux personnes l'ont vécu différemment.
Ouais.
Tu vois, moi, j'avais compris ça, toi, tu avais compris ça. Je peux-tu me parler? Je peux-tu dire comment moi, je l'ai vécu? Tu sais, apprendre à communiquer, à s'asseoir, à échanger, à savoir comment tu t'es senti, comment je me suis senti. Je pense que ça ouvre la sensibilité des uns et des autres. Je pense que peut-être qu'on n'était peut-être pas assez sensibles les uns aux autres. Et je pense que ce mouvement-là ouvre à la sensibilité. Mm-hmm. À se dire peut-être que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû, mais je savais pas que j'aurais pas dû. Parce que tu ne me l'as pas dit, parce que je croyais que c'était correct, parce que si, parce que ça. Ah, mais non, ah, ok. Tu vois, et ça ouvre, je pense, à un dialogue sain qui fait qu'après, en tant que société, on peut avancer quelque chose de plus beau, je pense. C'est ma façon de voir ça.
Puis est-ce que, par curiosité, quand tu es arrivé au Canada, tu avais quel âge?
J'avais 23.
23. Début vingtaine, mais ouais. Tu sais, le avant, as-tu vu une différence de comportement entre la France et le Canada et le Québec? Est-ce que il y a une différence pour...
Bonne question.
Parce que là, c'est
tu veux dire dans les rapports hommes-femmes?
Oui, dans les rapports hommes-femmes.
En fait, bizarrement, moi, j'ai quitté la France vers 19 ans.
Ouais.
Je suis parti vivre à Cuba.
OK.
Pendant 6 mois.
Après, je suis parti faire un stage.
Ouais, c'est vrai. Je vais faire un stage. Après, je suis parti un an et demi aux États-Unis.
OK.
Et après, je suis venu habiter au Québec.
OK.
Donc, ma jeunesse folle... Quand je dis folle, ma jeunesse folle, ma jeunesse de t'es célibataire et si et ça, eh ben, je l'ai vécu à l'étranger et non en France.
À partir de Cuba et je sais
comment. À partir de Cuba et l'au-delà. Ouais. Mm-hmm. Et donc, en fait, la majorité de ma vie adulte, je l'ai vécu au Québec.
Uh-huh. Okay.
Je suis arrivé ici, j'avais 22 ou 23 ans. Moi, j'ai voilà. Et donc, avant, j'étais à l'étranger. Fait que j'ai vécu ici. Fait que on dirait que j'arrive pas à répondre à cette question-là.
Bah non, mais ça se peut parce que t'étais pas là.
J'étais pas là.
c'est parfait.
Mais je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est relativement. Je pense que les hommes sont beaucoup plus latins et dragueurs, cruiseurs en France.
Mm-hmm. C'est la réputation, du moins.
Ça. Ouais. Ou au Québec, je pense un peu plus calme, un peu plus passif par rapport aux Français, je te parle.
Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm.
Mais sinon, je pense que c'est relativement la même chose. J'ai l'impression.
Génial.
Je sais pas pourquoi tu me regardes.
Parce que t'as les beaux yeux, mon père.
Merci.
C'est juste pour ça. t'as parlé de Cuba et des États-Unis dans ce bout-là.
Ouais.
C'est quoi? T'es-tu vraiment allé faire des stages ou qu'est-ce qui t'a amené à Cuba? Qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis?
En fait, à l'époque, j'avais mon oncle qui avait une entreprise de boulangerie, une chaîne de boulangerie.
À Cuba?
À Cuba.
Ah ouais.
Et donc, je me suis dit, je vais aller faire un stage. Je devais faire un stage pendant mes études. J'étais dans une étude de marketing et on m'a dit, va faire un stage. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire à Cuba. Et officiellement, je devais travailler dans l'entreprise de mon oncle, ouais, pour apprendre à faire du pain, voir comment fonctionne le business. J'ai travaillé 2 jours dedans. Les filles, je vous jure, j'ai passé 4 mois et demi à faire de la salsa. À danser la salsa.
Ok, pas de la salsa.
Non, non, non. Après à danser la salsa.
La piquante.
À parler espagnol et à découvrir la gente féminine de Cuba. C'est ça que j'ai fait pendant 4 mois et demi.
C'est cool. Ça.
Et je suis rentré et donc j'ai fait un faux rapport de stage. Je peux le dire maintenant si jamais ils m'entendent. Mais encore, anyway.
Passe avec ça.
J'ai fait un faux rapport sur tes 2 jours dans le fond.
J'ai fait un faux. Bah, en fait, j'avais pris un rapport. Je sais pas, j'avais monté quelque chose avec le gars qui était en fait là-bas. Comme quoi, j'ai rien fait. S'ils m'écoutent, mes professeurs de l'époque, de toute manière, c'est fini. Enlevez-moi mon diplôme.
T'avais-tu une bonne note?
J'ai une très bonne note.
Ah oui.
J'ai réussi à leur faire croire. Mais c'est ça aussi, apprendre à l'école. Uh-huh. Tu fais croire à des gens que t'as fait quelque chose, mais t'as rien fait. Et ils te croient même. Et ça prend un niveau de confiance que t'as besoin d'avoir. Et surtout, j'ai appris l'espagnol. Mm-hmm. Ce qui me sert encore aujourd'hui. Je parle couramment espagnol et c'est grâce à les 5 mois passés là-bas.
Ouais, et puis il me semble d'apprendre le marketing dans un pays communiste, ça me semble un peu étrange, non?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il réfléchit?
L'idée, c'est d'aller vivre quelque chose, en fait, à la base. Ouais. C'est pas tellement apprendre quelque chose, c'est surtout apprendre, s'adapter à un nouveau pays, parler une nouvelle langue, dealer avec une autre culture. C'est ça qui nous sert le plus, finalement. Les études, pour moi, c'est un prétexte. Mm-hmm. Mais je pense que les meilleures leçons, elles sont dans la vie.
Oui.
Je pense que dans les niveaux d'études aussi, en Europe, c'est beaucoup encouragé d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Je pense avant d'aller dans tes études supérieures. Puis je pense qu'il y a un encouragement d'aller voir avant de retourner de faire tes études supérieures, de dire mais va voir ce qui se fait, va étudier, va faire un stage, puis tu reviendras plus tard. Là,
je pense t'as raison. Mais je pense qu'on apprend beaucoup en. Tu sais, apprendre une langue, tu n'apprendras jamais mieux que si tu vas à l'étranger.
Mais c'est sûr.
Effectivement.
Et puis je prends apprendre l'école de l'humour, moi j'ai jamais cru en ça, même si je ne suis pas en train de dénigrer ça, mais pour moi, la meilleure école, c'est d'aller dans les bars, d'écrire, d'essayer, de réessayer, et puis de trouver ton style, tu vois, mais je ne pense pas que l'école de l'humour serve à devenir humoriste. Ça, c'est un avis qui est très personnel.
Est-ce que, à ton arrivée au Québec, ça a été difficile d'apprendre le français?
Quand je suis arrivé au Québec?
Oui.
Apprendre le français. Non,
t'as niaise parce que tu
fais chose de comprendre
la... Tu parles français. Non, je t'agace.
Mais c'est marrant parce que les gens, il y a des gens, des fois, qui mettent des commentaires sur Internet et ils pensent que je fais semblant de prendre un accent québécois. Même si j'ai pas l'accent québécois, mais j'ai une tonalité des fois québécoise.
Oui.
Il va m'arriver de sacrer, il va m'arriver de dire des mots. Et il fake. Mais non, je fake pas. Ça fait 18 ans que je suis là. Ma blonde, ma femme est québécoise. Mes filles parlent québécois. Je suis pas en train de faker. C'est partie de toi. Mais tellement que je suis devenu une propre parodie de mon accent français. Parce que si je vais imiter un français, je vais faire arrête. Et la parodie qu'un québécois ferait, ben moi je fais ça de mon propre accent. Ça fait tellement longtemps que je suis ici que. Ça, c'est mon imitation du français. C'est quand même marrant.
Ah non, c'est parfait. Puis quand tu es allé en France, est-ce que le monde trouvait que tu avais un accent étrange? Est-ce que ça devient un amalgame de québécois puis de français?
En fait, il y a toujours un 2-3 jours où il y a un. Puis, parce que mon cerveau maintenant est habitué à vite switcher.
Mm-hmm. Ouais.
Mais il y a un 2-3 jours où j'ai encore des mots québécois, des expressions québécoises. Et puis au fur et à mesure, ça repart. Et pareil, quand je reviens ici, il y a toujours 2-3 jours de trop français et après, ça revient comme au milieu, genre.
Est-ce que tu as dû adapter ton texte? Parce que là, quand tu as créé tes textes, tu étais au Québec. Mais quand tu es arrivé en France, est-ce que tu as dû adapter pour changer certains trucs?
Écoute, la majorité des blagues, elles marchent.
Ouais.
Je change quelques mots et une façon de le dire. Mais sinon, elles marchaient. Après, il y a des choses qui ne marchent pas là-bas, qui marchent ici et inversement.
Ouais. Les régionalistes, j'imagine, ou les trucs comme ça.
Les?
Régionalisme.
Des
trucs qui touchent plus le Québec. Là.
Ouais.
De rire, mettons, du maire de Québec.
C'est ça.
Par exemple.
C'est sûr qu'en France, il n'y en a rien à coller.
C'est ça. Mais j'ai peu d'humour comme ça. J'ai beaucoup d'un humour passe-partout.
OK.
Mais effectivement, il y a des choses, même en passe-partout, qui ne marchaient pas là-bas et qui marchent ici. Donc voilà, c'est juste une question de. Mais c'est aussi une question de dire les choses. Les Français, faut que tu leur dises quand c'est drôle.
Okay. Ah ouais.
Au Québec, tu fais une joke, tu parles et tu dis tu parles, puis les gens vont rire parce que c'est drôle.
Ouais.
T'as pas besoin de forcer. En France, il faut leur dire que là c'est drôle.
Tu prends une pause.
Là c'est la blague. Ris là maintenant. Pour qu'ils comprennent, c'est plus lent encore le. Il y a un autre parler français.
Ça doit être lourd au cinéma. Ça, c'est un film.
Couleur,
musique, écoute.
Et moi, pour vrai, j'ai toujours aimé beaucoup. J'ai jamais compris les blagues sur les films français au Québec. Parce que je trouve qu'il y a des très bons films français. au même titre qu'il y a des très bons films québécois. Ouais, mais oui. J'ai jamais compris les blagues de les films français, c'est long, c'est de la merde. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des bons films français.
Hey, sais-tu que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça, mais tu sais... mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est correct, c'est accepté.
Ouais.
Mais tu sais, à base, mettons, les premiers films qui ont eu des gros succès au Québec, que moi, je suis conscient, là, on s'entend quand même, selon mon âge, on parle de Taxi, on parle de Dîner de con.
Ouais.
Là, le monde a commencé à rire, on commençait à avoir du plaisir. Mais je pense qu'avant, c'est que c'était les drames, des longs films, des choses comme ça que le monde voyait. Tu sais, le cliché pour nous d'un film français, c'est un gars sur le bord d'une boulangerie qui fume une top puis que...
Puis que la moitié du film, ça passe en mangeant.
Fait que c'était ça pour un Québécois, un film français. Fait que c'était dole, tu sais.
Un raison. Gros cliché, là.
Mais là, quand il y a eu les... Annie... la fille de bonne humeur, là.
Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain. Ces choses-là, ça a commencé à changer tranquillement. T'sais. Là, le monde a commencé à faire comme « Ah ben oui, ils sont capables d'être drôles, les Français. »
C'est vrai.
Mais je pense aussi c'est que ça a été démocratisé, où chaque pays faisait ses films de leur façon. Puis quand c'est devenu plus mondialisation, on échange nos trucs. Là, on avait toutes nos régionalisations, tous nos trucs pays par pays. Fait que, l'Allemagne avait sûrement une réputation X dans les films, la France, le Québec, le Canada, les États-Unis. Fait que je pense qu'après ça, ça s'est ajusté, puis on voit des trucs un peu échangés des pays.
Étrangement, ça doit pas être quelque chose que toi, t'as connu quand t'étais jeune, de voir des films québécois débarquer chez vous? Ça devait pas être moins courante?
Non, on n'a pas grandi avec des films québécois, alors que vous avez grandi avec des films français.
Ouais.
C'est pour ça que vous, l'accent français, vous l'avez facilement.
Et aussi, les traductions, au début, étaient faites en France. Donc, adapté, mettons, un film américain était traduit en France. Donc, quand il est arrivé au Québec, ben là, on entendait les références françaises, exact. Des trucs. Fait que déjà, c'est ça. On part avec un petit peu plus de connaissances qu'un Français qui vient au Québec.
T'as raison.
Mm-hmm. On savait ce que ça voulait dire chelou.
Chelou. Puis même le verlan, tu sais, il y a des trucs qu'on connaît.
Mais y a-tu des perles de culture québécoise qui traversait à l'époque quand tu étais jeune? Y a-tu quelque chose qui te donnait l'impression que le Québec existait? Ou?
Non, je pense que la France ne s'intéresse pas vraiment au Québec.
Ouais, c'est bon feeling.
À part les artistes, tu sais, les Céline Dion, les Xavier Dolan ou Anthony Cavana qu'on connaît, mais sinon, il n'y a pas vraiment de cette culture-là. Parce que, tu sais, vous avez grandi avec les films français, mais nous, les films québécois, les films de Xavier Dolan en France, ils sont regardés, mais pas tant que ça non plus. Mm-hmm. C'est pas donc il y a des artistes.
Plus dans les festivals.
Ouais. Mm-hmm. Donc il y a des artistes qui viennent et qu'on connaît, mais sinon il y a pas vraiment de. Mais la réputation que vous avez, c'est que vous êtes super gentil. Les Québécois sont gentils et veut pas. Mais en fait c'est vrai, vous êtes un peuple foncièrement gentil et ça c'est sincère, et pacifique. C'est d'ailleurs pour ça que je suis resté ici depuis autant d'années. Mais vous avez cette réputation-là d'être gentil. Alors que les Français ont la réputation d'être arrogants, chiants, ce qui est vrai aussi.
Ce qui est vrai, mais je pense que ça passe surtout par leur envie de débattre. Ce que je connais du français moyen, moi, c'est l'envie de débattre.
C'est vrai. Hein.
Et tu sais, fait qu'ils peuvent parce qu'ils s'emportent. Moi, c'est ce que j'ai connu, c'est qu'ils s'emportent dans leur débat, qu'ils ont l'air de chialer, mais en fait, non, ils sont juste.
Ils sont intenses.
Ils sont intenses. C'est une guerre verbale, tu sais. C'est
l'intérêt.
Si tu débattes, on va avoir raison.
C'est débattre.
Ben, c'est juste pour le principe de dire, t'as ton point, j'ai mon point, mais t'as l'impression qu'ils veulent vraiment avoir raison et prouver.
Non, pas du tout. Pas du
tout. Toi, tu sens pas ça comme ça?
Ben, ça dépend peut-être des personnes, mais je pense qu'autant au Québec, il y a des gens qui veulent avoir raison.
Peut-être.
Je pense pas que c'est...
Mon échantillon, c'est pas ce qui m'a donné comme perception. Non. C'est juste qu'à chaque fois qu'ils sont pas d'accord, au Québec, on fait comme ok, c'est beau, on en parlera pas, mais eux autres, non.
Oui, mais ça vient du fait que t'as envie d'avoir raison, non? Sinon, tu dirais, ah ouais, belle façon de voir les choses. Je suis pas d'accord avec toi, mais effectivement, ouais. Alors que eux, c'est, non. Ils se mettent à parler, tu sais même plus de quoi ils parlaient au début. Là, ça se met à s'engueuler, c'est fatigant, man.
Ouais, pour ça, ils s'en vont s'affumer, ça met une top à côté d'une boulangerie.
Exactement. Les débats français sont épuisants.
C'est pour ça que vous mangez tard en France.
C'est ça.
Là, je te dis, vous, mais t'es plus québécois maintenant, mais c'est pour ça qu'on mange tard en France.
C'est vrai que je suis plus québécois maintenant, ouais. Je garde toujours mon origine française, mais c'est vrai que je me sens beaucoup mieux ici.
Est-ce que t'as encore de la famille en France?
Ouais, toute ma famille en France.
Ouais, tout à fait.
Mais d'où en France?
En Bourgogne.
Bourgogne?
Bourgogne, Dijon, la moutarde.
Ouais,
la moutarde de Dijon.
Mais je me sens mieux ici, on est mieux, je trouve. C'est plus simple, la vie ici. C'est plus... Tu sais, souvent, on rit de Trudeau, qui est un peu mou.
Ouais.
Tu sais, un peu pacifiste. Il prend jamais de camp. Il est toujours un peu, je sais pas, j'étais pas là. L'Ukraine, quoi? Non, quoi? Mais oui, mais non. Il est toujours un peu... Mais quelque part, quand il pense, il n'y a personne dans le monde qui déteste le Canada.
Ouais.
Qui veut rentrer en guerre avec le Canada? Il n'y a personne qui a jamais dit le Canada, astille. Personne. Tu n'as jamais entendu la Corée du Nord ou la Russie?
Non.
Ou un pays d'Europe qui a dit les Américains. Les Canadiens, voilà. Personne.
Ouais, mais je pense que pour eux autres, on est les États-Unis du Nord.
Non, mais tu comprends, personne n'est énervé contre le Canada.
Je comprends ça.
Mais je pense que le Québec veut aller en guerre contre le Canada. Mais ça, c'est un autre débat.
Peut-être Donald Trump aussi. Tu sais, dans tout le conspirationniste, là, il disait que Donald Trump allait libérer le peuple canadien de Justin Trudeau et tout ça.
Ouais. Mais il y a eu Donald Trump juste en négociation, c'est qu'il avait été rough avec le Canada.
Oui, avec...
Que là, il s'était fâché et qu'il avait augmenté les prix du bois parce qu'on augmentait les taxes d'autres choses.
Mais ça se peut que ce soit encore pire aussi.
Mais c'est vrai que personne ne veut la guerre avec nous.
Mais non, parce qu'on dit qu'il est mou, mais il y a du bon là-dedans. C'est que personne n'est énervé contre le Canada. S'il y a une guerre, on est comme, oh, peut-être qu'on va être correct.
On va vous envoyer des amis.
Personne ne nous en veut pour rien. Fait qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. À part la Russie qui pourrait passer par le pôle Nord et nous rentrer dedans.
Ben, ils vont passer par l'Alaska avant. Fait que, tu sais, s'ils passent par l'Alaska, techniquement.
C'est les États-Unis.
Attends. Mais non, mais t'as le Nord complet.
Oui, mais il y a le Nord. Ouais. Dans les territoires, oui, mais c'est sûr qu'on peut passer par là. Mais maintenant, il y a plein de radars. Fait qu'ils pourraient, mais je pense qu'on va les voir.
Qui s'essaye?
Qui s'essaye?
On t'attend à Poutine.
Allez-y, qui s'essaye, allez-y.
Qui s'essaye, on va voir qu'on en mange en crise.
Avec ces changements de radar là aussi, là, que je pense que c'était l'été passé, là, il y avait comme plein de ballons espions là, dans le ciel au Canada. Là. Ils ont réajusté et ils en détectaient plus que d'habitude.
Ouais. C'était des tests.
Des tests, des extraterrestres en ballon.
C'était des ballons chinois?
Oui. Ouais. Ben, c'est facile de dire que c'est un ballon chinois.
Ben, ça vient tout de chercher.
Probablement, ils ont tous été fabriqués là.
Mais ça, la main d'œuvre. Ça vient de Taïwan aussi, mais ça, c'est la Chine.
Ouais. C'est un autre débat, c'est ça. On va se faire canceller.
Et on arriverait vers la fin. Jérémy, d'habitude, quand on a des invités, on leur demande s'ils ont des questions.
Ah, bonne idée.
Avez-vous des questions pour Jérémy?
Vous venez nous écouter à soi? Ah, vous travaillez à la salle? Ah, d'accord. Ah oui, on remarque avec le petit, forcément. Oui.
À l'arrêt de la pharmacie, elle a fait changer.
Elle aime bien que les gens sachent son nom constamment.
C'est ça.
Jérémy, est-ce que tu as des podcasts? As-tu quelque chose que tu aimerais plugger avant qu'on ferme? T'sais, parce que ton show, il va être malheureusement trop tard pour les gens qui vont écouter. Mais as-tu du tout?
Pas du tout. Merci les gars de m'avoir accueilli dans votre podcast.
C'est nous qui te remercions. Merci d'avoir eu des bons débats. On va continuer après. On va se retourner en arrière.
Et on va aller à la boulangerie.
On va aller à la boulangerie, ça nous mène top. Jérémy Demé, merci beaucoup.
Merci à vous les gars.
Je vous remercie encore une fois notre commanditaire, Honeybee. Parce qu'Honeybee, c'est...
Bon en salle!
Jamais. Bonne journée tout le monde.
Bye. Bye, merci.